Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous revenons sur les 10 ans de la CPI, la Cour pénale internationale permanente. Avec son porte-parole, Fadi Al-Abdallah, nous évoquerons ses réussites, ses défis, mais aussi les enseignements à tirer de sa première décennie d'existence. Bonne écoute.
Le statut de Rome, donc le traité fondateur de la Cour pénale internationale, a entré en vigueur le 1er juillet 2002. Bien entendu, après, il y a eu un besoin de créer les structures de la Cour, de d'élire les juges, le procureur et de construire l'institution comme on la connaît aujourd'hui.
All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est exactement le rôle de la Cour et comment est-ce qu'il est mis en œuvre ?
Alors, il est très clair dans le préambule du statut de Rome, donc le traité créateur de la CPI, que la communauté internationale a voulu mettre l'accent sur le fait qu'il y a une mosaïque de culture internationale qui est fragile et que, afin de préserver cette richesse, afin de préserver les populations humaines, il faut empêcher la commission des crimes de masse. Donc la Cour pénale internationale a été créée précisément pour mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes de masse, spécialement crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Ce sont les crimes contre lesquels la CPI a été créée. Donc la CPI a une compétence en ce qui concerne ce type de crimes-là. Et il n'y a aucune immunité qui est reconnue devant la CPI. Il y a des conditions pour sa compétence. Elle s'exerce lorsque ça concerne des crimes commis par des citoyens d'un État-parti ou sur le territoire d'un État-parti. Et le but ultime de la Cour, c'est d'avoir tous les États de la Terre devenir partie au statut de Rome afin de pouvoir accorder aux différentes populations du monde une protection légale, juridique contre les auteurs de tels crimes de masse. Et donc construire un effet dissuasif pour le futur afin que ces crimes ne se répètent pas et ne laissent pas à nouveau des milliers et des milliers de victimes.
Alors la Cour pénale internationale, ce n'est pas une cour de première instance, c'est une cour plutôt de deuxième instance. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle s'empare des différents dossiers et investigations à mener, les différentes enquêtes à mener ?
Oui, je dirais pas que c'est une cour de deuxième instance, c'est plutôt une cour en dernier recours, dans le sens qu'elle complète le travail de la justice nationale, et c'est uniquement lorsque les juges nationaux n'ont pas les moyens ou n'ont pas l'intention de mener à bien des poursuites sérieuses, n'ont pas la capacité de gérer des enquêtes ou des poursuites qui concernent des crimes de masse commis à grande échelle, c'est uniquement à ce moment-là que la CPI peut intervenir. Donc elle n'intervient pas en tant que supérieure à la justice nationale, mais plutôt en tant que complémentaire à la justice nationale. Elle intervient lorsque la justice nationale ne peut pas ou ne veut pas faire le travail de combattre l'impunité des auteurs de ces crimes de masse que j'avais mentionnés. Maintenant, concrètement, la CPI peut ouvrir une enquête, soit lorsqu'il y a un État-parti qui demande au procureur d'ouvrir une enquête, soit lorsque le Conseil de sécurité demande à la CPI d'ouvrir une enquête. Et pour le Conseil de sécurité, il peut faire ça même pour les États non partis au statut de Rome. C'était le cas pour la Libye et pour le Soudan. Soit, troisième moyen d'ouvrir une enquête, lorsque le procureur décide de sa propre initiative de lancer une enquête avec l'autorisation des juges en ce qui concerne seulement les crimes commis par des citoyens d'un État parti ou sur le territoire d'un État parti ou d'un État qui a volontairement accepter la compétence de la Cour sur ses territoires et sur ses citoyens.
Alors, quelles ont été les grandes réussites au cours des 10 dernières années de la CPI ?
Alors, d'abord, je dirais que la plus grande réussite, c'était la réussite de la communauté internationale à créer une Cour pénale internationale. C'était un rêve qui a commencé en fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui a pris énormément de temps à devenir une réalité. Donc en 1998, il y a eu l'adoption du statut de Rome qui était un grand pas en avant pour le droit international parce que ça commençait à réaliser ce rêve et ce besoin. Et en 98, les observateurs disaient « bon, la création de la Cour, ça va prendre encore 30 ans parce qu'il fallait la ratification de 60 États ». Ceci a été fait en 4 ans et non pas en 30 ans parce que c'était clair que la création d'une telle institution répondait à un besoin au sein de la communauté internationale de fortifier le droit pénal international et de mettre terme à la répétition des crimes les plus sérieux, les plus graves qui dépassent en général les frontières d'un seul pays. Donc, cette première réussite d'avoir 60 États en 4 ans, puis de doubler le nombre des États partis dans la première décennie de l'existence de la Cour, c'est un nombre qui continue à grandir. On est passé de 60 États en 2002 à 121 États en 2012. Donc ça témoigne de la confiance des États, de la confiance qui continue de grandir des États dans le travail de la Cour et de leur compréhension du besoin qui est la Cour, ce qui fait que la Cour est devenue un acteur clé sur la scène du droit international. Après, il y a des réussites plus particulières concernant les différentes affaires, les différentes enquêtes qui ont été menées. Devant la Cour, il y a actuellement un ancien président de la République, c'est ce qui concerne la Côte d'Ivoire, un ancien vice-président d'une autre république, ce qui concerne le Congo. Il y a des mandats d'arrêt contre un troisième président de la République, M. Al-Bashir, et il y avait un mandat d'arrêt également à l'encontre de Muammar Kadhafi, ce qui témoigne que la Cour met en pratique l'idée qu'il n'y a pas d'immunité qui peut être opposée au travail de la justice internationale. Ça, c'est également une chose qui est très, très importante. Troisième réussite que j'aimerais souligner en ce moment, pour être bref, c'est essentiellement la question de la participation des victimes. La Cour pénale internationale est la première Cour internationale devant laquelle les victimes ont le droit de participer à la procédure. Et actuellement, nous avons reçu plus de 11 000 demandes de participation à la procédure, sachant que cette participation n'apporte pas d'avantage monétaire ou financier à ces victimes. Donc, ceci seulement témoigne de leur volonté de rendre leur voix audible devant les juges, ce qui est très, très important pour eux comme pour nous-mêmes. Et très récemment, il y a eu la première décision sur les réparations qui désigne une nouvelle approche qui est très intéressante parce qu'elle indique essentiellement que le but des réparations, ce n'est pas simplement de compenser la souffrance ou les pertes des victimes, mais de permettre aux victimes de réintégrer une vie digne et respectueuse dans leur propre société, d'où le besoin de consulter leur propre société et non pas seulement les victimes pour décider qu'est-ce qui serait des réparations adéquates. Bon, c'est l'approche de la chambre de première instance qui pourra être confirmée ou pas par la chambre d'appel, mais comme première approche, je pense que ça mérite d'être souligné en tant que décision très novatrice.
Thomas Lubanga, ancien chef de milice congolais, a été condamné à une peine de 14 ans de prison par la Cour pénale internationale pour avoir enrôlé des enfants.
La Cour pénale internationale autorise l'ouverture d'une enquête sur les crimes de guerre qui ont pu être commis en Côte d'Ivoire. À la suite de
Laurent Gbagbo, accusé par la CPI de 4 chefs de crimes contre l'humanité.
La Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Sigmund Gbagbo.
Fadiel Abdallah, une question un peu plus épineuse. La Cour a été fortement critiquée du fait que le gros de son activité se concentre sur le continent africain. Qu'en dites-vous ? Comment se fait-il qu'il en soit ainsi ?
Alors, pourquoi il en est ainsi ? Essentiellement parce qu'il y a 3 gouvernements africains qui ont demandé à la Cour d'enquêter sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur le territoire, que dans d'autres cas, dans 2 autres cas, c'est le Conseil de sécurité qui a demandé à la Cour d'enquêter. Dans les 2 dernières enquêtes que le bureau du procureur a ouvertes de sa propre initiative, c'est le Kenya, c'était en consultation avec le gouvernement kenyan, et la Côte d'Ivoire qui n'est pas un État parti, mais qui a volontairement accepté et demandé à la Cour d'avoir compétence sur ce qui se passe. Donc dans tous ces cas-là, on trouve qu'il y a une demande de la part des gouvernements africains, même lorsque je parle du Conseil de sécurité, la décision sur la Libye a été adoptée par l'unanimité, donc même les représentants du continent étaient d'accord avec l'idée que l'intervention de la justice était nécessaire dans ce conflit. Donc vous voyez qu'il y a une demande de la part des Africains, des gouvernements et je dirais de la population également, parce que le nombre de demandes de participation des victimes en témoigne. Maintenant, c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne la procédure d'ouvrir une enquête. Il n'y a pas eu de demande ni d'un gouvernement non africain, ni du Conseil de sécurité en ce qui concerne un pays non africain. Et c'est pour cela qu'on n'a pas ouvert encore d'enquête dans d'autres régions, mais le bureau du procureur est en train de faire une analyse préliminaire qui pourrait aboutir à une ouverture d'enquête en ce qui concerne 8 autres situations, dont plusieurs en dehors du continent africain, en Colombie, en Géorgie, en Corée, en Honduras et autres. Donc vous voyez, l'idée pour la CPI, c'est essentiellement de suivre les différentes procédures comme c'est indiqué dans le statut de Rome. Et c'était essentiellement utilisé par les gouvernements africains ou par les représentants des gouvernements africains jusqu'à ce moment-là. Mais le bureau du procureur est en train de faire une analyse sur d'autres pays. Mais il faut rappeler que la CPI, c'est une cour qui est complémentaire au travail des systèmes nationaux. Donc lorsqu'il y a un système judiciaire national qui est fort et qui est capable de mener à bien les poursuites et les enquêtes, la CPI n'intervient pas. Il faut également rappeler que dans la dernière décennie, c'est essentiellement l'Afrique qui a souffert énormément et que dans beaucoup de cas, comme j'avais dit, c'est les gouvernements eux-mêmes qui ont demandé à la Cour d'enquêter parce qu'ils avaient connaissance de la situation de leur système national et du fait que certains crimes de masse dépassaient les capacités à l'époque lorsqu'ils avaient demandé à la Cour d'enquêter. Africa. Il faut toujours souligner le critère temporel aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui diraient pourquoi la CPI n'enquête pas sur des crimes qui datent de 95 ou 96. La compétence de la Cour a commencé depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, donc à partir de 2002. On ne peut pas avoir une compétence d'avant 2002, ce qui empêche la Cour d'enquêter sur certains crimes qui sont antérieurs à cette date-là et qui sont souvent mentionnés. Le dernier élément, c'est comme je l'avais indiqué, la compétence de la Cour est liée seulement aux États parties. Donc lorsque des crimes commis par des citoyens d'un État non parti sur le territoire d'un État qui est également non parti, la CPI ne pourra pas ouvrir une enquête dans ce cas-là. Ce qui également répond à certaines questions sur pourquoi la CPI n'ouvre pas une enquête dans tel ou tel autre pays. C'est simplement parce que ce pays concerné n'est pas un État parti. Et sauf si le Conseil de sécurité décide de saisir la CPI du cas dans ce pays-là, la CPI ne pourra pas ouvrir une enquête. Donc vous voyez, il y a des raisons très judiciaires pour dire pourquoi jusqu'à ce moment-là, les enquêtes s'étaient concentrées sur l'Afrique. Mais comme je disais, le travail de la Cour ne se limite pas à enquêter, mais également à faire des analyses préliminaires qui peuvent conduire à des enquêtes. Et certaines de ces analyses préliminaires concernent des États non africains.
Dernière question, Fadiel Abdallah. Quelles sont les leçons apprises par la Cour au cours des 10 dernières années?
Je pense qu'il y a énormément de leçons que la Cour a pu apprendre au cours de ces 10 dernières années, essentiellement sur le niveau judiciaire, parce qu'on a accompli un premier procès entier, parce qu'il y a d'autres procès qui sont actuellement en cours. Et donc il y a des leçons sur le plan de la technique judiciaire, des interprétations, de la jurisprudence qui a été construite par les chambres. Mais je pense qu'il y a une leçon qui est très importante également qui a été apprise, c'est que la CPI n'ayant pas une police ou une armée, il y a beaucoup de choses que la CPI ne peut faire qu'avec le soutien des différents États. Donc je dirais que l'idée de travailler pour avoir une coopération forte et continue et un engagement très soutenu de la part des différents États est essentiel pour que la justice internationale puisse remplir son mandat.
Et c'est avec cet appel à la coopération forte des États du monde pour un monde plus juste que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration d'Élodie Sabot et de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.